9e rencontre au coin du livre, nous sommes heureux de vous accueillir, d'accueillir le pasteur Pascal Gonzalez aussi, qui vient nous entretenir ce soir donc de ce thème sur qu'est-ce qu'être pasteur ou être pasteur dans une ville moyenne comme Alès. Alors, quelques mots peut-être pour cerner le sujet, ou en tout cas pour poser quelques bases avant d'aborder de manière plus concrète le thème de ce soir. Le protestantisme, dans les années 70, on parlait d'un protestantisme sans crise de vocation. On disait que le grand avantage des protestants sur les catholiques, c'était d'avoir un vivier de pasteurs. Aujourd'hui, évidemment, la question se pose autrement. En tout cas, selon les hebdomadaires protestants, pour certains, on parle de crise de vocation, même s'il est évident que le visage du pasteur a changé et que, notamment avec le ministère féminin, eh bien, il y a un certain renouvellement dans les rangs des vocations pastorales, puisque vous savez que dans l'Église réformée ou luthérienne, maintenant dans les Églises réformées évangéliques aussi, indépendantes, eh bien, le ministère pastoral est un ministère à part entière. Donc pour les analystes du monde réformé traditionnel, il y a là un vrai renouvellement des vocations. Maintenant, la question demeure, qu'est-ce qu'être pasteur aujourd'hui? Est-ce que c'est encore une vocation? J'ai lu dans certains articles qu'il ne fallait plus parler aujourd'hui de vocation pastorale. Alors je ne sais pas ce que nous dira Pascal Gonzalez sur la question. Est-ce que c'est encore une vocation? Quel est l'objectif? Quel est le travail d'un pasteur? Est-ce que ce travail a changé? Pour quelle raison? A-t-il changé parce que l'Église a changé? Et il faut prendre note ici, évidemment, d'un bouleversement énorme dans le monde protestant et dans l'ensemble du paysage français, l'exode rural, qui a modifié complètement le paysage, évidemment, de l'espace francophone, mais aussi du protestantisme, puisque le protestantisme, à ce moment-là, avec l'exode rural, a complètement éclaté. Et ce qui faisait sa force, ces structures qui faisaient sa force, puisque le protestantisme se regroupait dans de petites régions, ou dans certaines régions, et là, il y avait une cohésion de la communauté protestante, ces communautés ont éclaté, et une grande partie, donc, ont été vivre en ville par nécessité. Mais en ville, ils ne retrouvaient plus les mêmes réseaux, les mêmes réseaux d'amitié, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes réseaux d'église, qu'ils avaient l'habitude de côtoyer lorsque eux-mêmes ou leur famille avaient vécu en campagne. Donc se pose la question aussi, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'être pasteur? Est-ce que c'est plus un rôle d'accompagnement, un rôle de soutien personnel, beaucoup plus qu'avant? Ou est-ce que cette donnée aussi n'a pas changé fondamentalement, au fond, le travail du pasteur? Est-ce qu'être pasteur demeure ce rôle principal tel qu'il avait été déjà défini par Calvin dans son institution, à savoir prêcher la parole et donner les sacrements? Vous savez que Calvin ne parlait pas de pasteur, mais de ministre de la parole de Dieu. Très vite, ce titre de pasteur s'est trouvé attaché à la charge de ceux qui se réclamaient de la religion réformée. Et il faudra attendre Vatican II, notamment, pour que l'Église catholique ose reprendre à son profit le terme de pasteur. Donc vous voyez comment, finalement, ce mot de pasteur lui-même a été très vite et très longtemps associé à la charge du travail des ministres de la parole de Dieu, de l'Église réformée ou du monde protestant en général. Voilà, donc il est évident que pour l'extérieur, mais certainement aussi de l'intérieur, la vocation, le métier, le rôle du pasteur a certainement évolué. Et se pose aussi la question de savoir comment il a évolué dans une ville moyenne. Peut-être que ce n'est pas la même chose, peut-être que c'est la même chose que dans une grande ville comme Paris ou Lyon. Est-ce qu'il y a des confrontations qui sont moins douloureuses? Est-ce qu'il y a des enjeux, des exigences plus importantes dans une ville moyenne que dans une grande ville? Voilà, tout cela est à débattre. Et je vous propose d'écouter donc Pascal Gonzalez qui va nous retracer son itinéraire, qui va nous parler aussi de quelques livres. Et nous dira donc comment il fonde son travail essentiellement sur la parole de Dieu. Voilà, je lui laisse la parole.
Merci,
Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je ne prétendrai pas ce soir dresser un panorama complet de la situation du pastorat en France, ni même dresser un tableau complet, qu'il soit sociologique ou psychologique, hein, des pasteurs et de la situation des pasteurs dans notre beau pays ou même dans notre belle région. Mais peut-être, en partant de mon expérience personnelle, faire un peu le point. Et puis je compte beaucoup aussi sur le temps que nous aurons tout à l'heure en discutant, hein, et en essayant de répondre à vos questions pour que nous puissions là avancer encore un peu plus sur les questions qui viennent de m'être proposées, de vous être proposées à vous aussi, hein, et qui concernent la question de la vocation, la question de l'évolution de notre société et de l'Église. Mais quand on parle de l'Église, on parle de tellement d'Églises différentes. Et si on sait que certaines Églises sont en perte de vitesse et vivent une crise des vocations, d'autres églises, au contraire, ne vivent pas du tout ces crises-là. Hein. Donc on est dans une situation complexe et multiforme. Mais pour commencer par mon expérience personnelle, je n'étais pas véritablement destiné à être pasteur. Hein. Si mon épouse est fille, petite fille et arrière-petite fille de pasteur, ce n'est pas mon cas. Et mon père était simplement maçon. Quand je dis simplement, cela n'a rien de dévalorisant, mais en tout cas, ce n'était pas un pasteur qui aurait formé son fils à le devenir ensuite. Et mon papa n'était pas croyant non plus. Quand j'étais enfant, je me souviens très bien qu'un dimanche sur deux, j'allais au culte avec ma maman. Et puis l'autre dimanche, j'allais au match de foot avec mon papa. Et je garde un bon souvenir de cette alternance agréable entre les matchs de foot et les cultes du dimanche. Et puis ce qui a été un événement fort de ma vie, c'est l'accident de travail de mon papa. Donc il y a eu un accident grave, qui est tombé d'un échafaudage alors que j'avais 7-8 ans, et qui est resté dans le coma quelques jours, 3-4 jours, une période difficile évidemment là, pour toute la famille. Et mon papa savait que l'Église priait pour lui, et que son épouse priait pour qu'il se tourne vers Dieu. Et lorsqu'il nous a raconté ces événements un peu plus en détail, il y a peu de temps. Il arrive que les hommes soient un peu pudiques en ce qui concerne leur foi et leurs émotions personnelles. Donc à l'âge de 60 ans, mon père m'a raconté, ou nous a raconté un peu plus en détail ces événements. Et il décrit ce temps de coma comme un temps de combat avec Dieu. Pendant 3 jours, il a lutté avec Dieu. Il fallait qu'il se décide s'il se tournait vers Dieu ou s'il s'éloignait définitivement de lui. Et mon père s'est réveillé après s'être tourné vers Dieu. Et c'est évident que c'est quelque chose qui a fondé et qui a transformé ma vie. J'ai participé régulièrement au culte et un peu moins au match de football le dimanche. Et j'ai bénéficié de l'enseignement et puis du témoignage fidèle là, de parents qui vivaient leur foi simplement, sérieusement, profondément, avec un papa qui effrayait un peu son épouse par son zèle incroyable, comme la plupart des nouveaux convertis. Et puis, un jour, un monsieur a assisté au culte, à l'église réformée évangélique de Vauvert, dans laquelle je vivais. Et c'était un professeur de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Alors, je sais que certains connaissent bien cette faculté ici. Et ce professeur est venu me voir à la fin du culte, et j'avais simplement lu un texte pendant le culte. Il est venu me voir, il m'a dit, « Jeune homme, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux études de théologie? Est-ce que vous avez pensé à être pasteur ?» Et c'est une question qui m'a surpris, évidemment, et qui m'a travaillé pendant quelques temps. Je suis allé voir mon pasteur pour lui en parler. Et ce pasteur m'a conseillé d'attendre un peu, de tester ma vocation, hein, puisqu'on a parlé de vocation tout à l'heure. J'ai bien senti là un appel, et j'ai voulu un peu tester cet appel, d'abord en en parlant autour de moi. Hein, je crois que c'est assez naturel et sain de faire ça, de voir si cet appel qu'on ressent ou qu'on nous propose est un véritable appel. J'en ai parlé avec mon pasteur qui m'a proposé d'attendre un peu, donc. Et après quelques études, l'appel était toujours aussi fort. Plus tard, j'ai appris que ce professeur de théologie disait ça pratiquement tous les dimanches à différentes personnes. Quand je dis pratiquement, c'était pas quand même exagéré, mais c'était une façon aussi d'interpeller les gens, et notamment les jeunes. Et je me permets une parenthèse, mais c'est peut-être ce que nous oublions un peu trop souvent dans nos églises. Je ne me permettrai pas de critiquer les autres églises que je ne connais pas assez bien, mais d'interpeller les gens, et les jeunes notamment, pour qu'ils puissent un jour se poser la question de ce ministère à temps complet,
ce service pastoral qui ne vient peut-être pas naturellement. Hein. Sûrement qu'il y a des pasteurs qui raconteront l'histoire de l'illumination ou du coup de foudre ou du Dieu qui se révèle dans le sommeil ou dans les rêves. Mais je crois que nous avons souvent besoin aussi que Dieu passe par la bouche de quelqu'un et qui nous interpelle. Alors voilà, après cette parole et après ces études qui n'avaient rien à voir avec le pastorat à l'université de Montpellier, j'ai pu accomplir mes études de théologie à la faculté d'Aix-en-Provence et devenir pasteur. J'ai d'abord été pasteur à Aix-en-Provence, justement. C'est une période un peu difficile parce qu'on se retrouve pasteur de ses professeurs, alors c'est particulier. Et dans une église qui m'a paru froide de premier abord. Et c'est là que j'ai reçu mes premières leçons de pasteur. Dans cette église apparemment froide, et là, il y avait beaucoup de belles choses à découvrir. Et j'ai découvert ce qu'on ne découvre pas dans les études de théologie, ce qu'on ne découvre que sur le terrain, ce qu'était véritablement le ministère pastoral. Voilà, ça c'est mon témoignage, mais on nous forme bien, je crois, en tout cas assez bien, à la prédication, et nous sommes capables, en tout cas pour la plupart, d'animer assez correctement et assez sérieusement, en tout cas d'animer, d'aider les gens à approfondir le texte biblique. On ne nous prépare peut-être pas assez bien à écouter les gens, à les accompagner, à les découvrir. Et c'est ce qu'il m'a fallu apprendre pendant ces quelques années. Apprendre à écouter, apprendre à découvrir les gens, et que du coup mes prédications et mes études bibliques se nourrissent de ce que je pouvais découvrir pour répondre enfin vraiment aux questions que se posaient les gens et non pas aux questions que nous imaginons qu'ils se posent. Ça a été une première découverte. J'ai été ensuite non pas véritablement pasteur mais animateur évangéliste. Alors, c'est un poste que j'ai accepté lorsque j'étais après mon premier pastorat. Et je devais aller dans des églises de notre Union nationale pour essayer de les stimuler concernant l'évangélisation. Donc je passais simplement 2-3 ans dans une église pour accompagner cette église sur la question de l'évangélisation. Je me suis retrouvé à Toulouse, donc dans une grande ville, et puis à Saint-Girons, dans une toute petite ville en Ariège. Et j'ai vécu ces deux extrêmes pour maintenant me retrouver dans une ville moyenne. Donc voilà, ça me permet peut-être de pouvoir dire quelque chose sur cette particularité du pastorat dans une ville moyenne. Si je suis particulièrement à l'aise et heureux d'être dans une ville moyenne, c'est parce que je pense d'abord qu'Alès est une ville à taille humaine, et ça me plaît. Ce n'est pas un petit village comme Saint-Girons, et ce n'est pas non plus une grande ville comme Toulouse. La particularité des petits villages, on en a dit quelques mots dans l'introduction, c'est que le réseau est très vite fait, et puis ce que nous faisons, ce que nous disons a un impact important. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Je me rappelle que après ma deuxième semaine passée dans ce petit village d'Ariège, dans toutes les devantures des cafés, il y avait une grande affiche où il était marqué « Un pasteur dans la ville ». Voilà, pour passer inaperçu, là, c'est difficile. Et dès que je faisais ou que je disais quelque chose, je pouvais être sûr que le lendemain, il y avait un voisin ou un ami ou quelqu'un de la ville qui faisait référence à cette parole ou à cet événement. Donc on ne vit pas caché, ça a des avantages et des inconvénients. Ça nous a permis d'avoir des relations très rapides et très bonnes avec la mairie, avec les services de presse, ce qui n'est pas toujours le cas sur Alès. Ça nous a permis d'être connus rapidement et de pouvoir porter aussi un message rapidement. Moi, j'étais impressionné du fait qu'on pouvait écrire des articles où on expliquait par exemple qu'on venait de faire une retraite d'église, et puis dans cet article-là on évoquait non seulement le sujet de la retraite mais on avançait quelques arguments, et l'article complet passait dans le journal le lendemain régulièrement. Donc ça c'était vraiment assez, assez agréable. Et la particularité aussi de cette vie d'église dans ce petit village, c'est que c'était une implantation de l'église et qu'on vivait les uns véritablement avec les autres. On passait beaucoup de temps les uns avec les autres, on s'est vite découvert les uns et les autres, et on vivait quelque chose de très différent de ce que j'ai vécu à Toulouse, où là, vivant dans un quartier de cette grande ville, on avait du mal à saisir les gens, et à les saisir au sens propre et au sens figuré. Combien c'est difficile dans une grande ville de trouver des rendez-vous, hein, de pouvoir aller voir les gens tout simplement et passer du temps avec eux. On se retrouve devant des difficultés qui sont des difficultés physiques et géographiques. Et on se perd un peu dans cette grande ville. Alors moi, je m'y perdais aussi peut-être parce que j'ai grandi dans une ville de taille moyenne et que je n'avais pas forcément mes repères dans cette grande ville de Toulouse. Voilà, ça c'est mon expérience pour maintenant me retrouver sur Alès dans une ville de taille moyenne et continuer à apprendre comme vous tous, jour après jour. On a dit dans l'introduction que la vie d'église avait changé, et c'est vrai. Je pense que les prédications ont changé. Lorsqu'on lit une prédication de Calvin, lorsqu'on lit une prédication d'un pasteur du XVIIIe siècle, et quand on le fait, des études sur les prédications qui sont données aujourd'hui dans nos églises, encore une fois, je ne peux pas trop parler des autres églises, on est surpris du changement de ton et de la prudence, peut-être la trop grande prudence que nous avons pour aborder certains thèmes. On est peut-être surpris aussi de certains thèmes qui sont pratiquement absents de nos prédications ou de nos études bibliques. Alors, voilà, quand je dis qu'on est constamment en train d'apprendre, de découvrir ou de redécouvrir, le pasteur est devenu peut-être à partir des années 60-70 dans nos églises plus un animateur à qui on demandait des compétences multiples. Hein. Il fallait savoir absolument tout faire, de l'animation des enfants en centre de vacances et dans les écoles bibliques, à l'accompagnement des mourants. Et certainement que certains pasteurs se sont sentis dépassés par la tâche. Je n'ai pas vécu cette période, mais je sais qu'il y a eu une période dans l'histoire de nos églises où beaucoup de pasteurs ont arrêté le pastorat. Et j'imagine que c'est en partie à cause de cette attente qui était forte, trop forte. On attendait tout du pasteur. Le pasteur est devenu une sorte de prêtre protestant qui devait savoir tout faire et qui devait tout faire aussi à la place des autres. Je me rappelle dernièrement de la réaction d'une fidèle de notre église qui nous a dit « Mais dans notre liturgie, dans notre façon de vivre le culte, il n'y a presque plus de place pour nous les fidèles. » Et on a l'impression que dans ces prières liturgiques que nous utilisons souvent, tout est dit. Et qu'il n'y a plus de place pour que nous, maintenant, nous puissions nous exprimer avec nos mots, avec nos souffrances, avec nos joies. Alors nous sommes, dans notre église, je crois, constamment en train de réfléchir à notre piété, à notre façon de vivre le pastorat, à notre façon de vivre l'église. Nous essayons de revenir à des choses plus simples, plus vraies, plus profondes. Je me souviens avoir visité une église américaine aux États-Unis avec Stéphane Lozé, qui est venu ici il y a quelques temps là, pour une soirée au coin du livre. Et cette église avait décidé pendant une année d'arrêter toutes ses activités, pour faire le point, pour que les pasteurs, les anciens et les fidèles réfléchissent à leur vie d'église, pour qu'ils puissent encore mieux répondre aux questions que se posaient véritablement les gens qui vivaient autour d'eux. Et pendant cette année où ils n'ont fait que prier et réfléchir lors de certaines réunions, lors d'une réunion hebdomadaire, eh bien il y a la moitié de l'église qui est partie. Et puis au bout de 4 ou 5 ans, cette église, alors évidemment ce sont les États-Unis, mais cette église a vu le nombre de ses fidèles se multiplier par 5 ou 6. Après avoir vécu, après avoir pris ce risque de la pause, et de la prière et de la réflexion. Alors voilà, je voudrais juste terminer mon intervention avec quelques livres. Et je me suis dit qu'en étant au coin du livre, il pouvait être intéressant de partager avec vous quelques livres qui m'ont touché, qui m'ont interpellé, qui m'ont repris parfois dans mon ministère. Et ces livres vous diront ce qui est important dans le ministère pastoral selon moi. Et ils vous diront aussi que le pasteur est un homme du livre. Évidemment que la Bible est au centre de notre vie. Je crois que le pasteur est appelé aussi à se nourrir, à nourrir sa réflexion théologique. Le pasteur est appelé à prier. Alors je vais prendre les livres les uns après les autres, et puis dans le désordre, mais vous comprendrez à chaque fois de quoi il est question à peu près. Je dois beaucoup à John Stott, que certains connaissent sûrement. Et j'ai non seulement pendant mon ministère beaucoup apprécié ses commentaires, parce que je trouve qu'il y a peu d'auteurs qui savent allier autant que lui la rigueur scientifique et la profondeur du commentaire et puis le ton pastoral. J'ai l'impression que quand on lit un commentaire de John Stott, on a pratiquement sa prédication toute prête. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a toute une part du travail là, qui nous est mâchée, alors qu'on peut lire parfois des commentaires très savants et très critiques qui nous demandent beaucoup de temps ensuite pour en passer à l'application, ou bien des paraphrases spirituelles qui nous laissent un peu sur notre faim. J'ai trouvé avec John Stott, au-delà de certaines idées de ce théologien que l'on peut critiquer, beaucoup de profondeur et de sens pastoral. Ce désir toujours d'être proche des gens et de tirer des conclusions pour son temps. Et je vous propose juste un jour de lire ce livre, La foi évangélique, qui est une sorte de testament spirituel où John Stott essaie de faire le point sur cette foi qui nous rassemble et qui doit nous rassembler, en montrant qu'il y a une urgence à savoir qui sont les évangéliques et ce qu'est la foi évangélique. Et je me retrouve dans cette urgence pour que nous puissions nous unir, parce qu'il y a une urgence à nous unir, et pour que nous puissions aussi refuser certaines collaborations parfois, parce que l'essentiel n'est pas en commun. C'est un vrai sujet, je crois, pour nous les pasteurs et puis pour les églises, savoir jusqu'à quel point nous pouvons collaborer et travailler ensemble lorsque la foi évangélique est mise en danger. Et évidemment, dans les lettres du Nouveau Testament, nous avons sans cesse ce débat entre le désir de l'unité et puis le souci de la vérité. Et il y a dans ce livre véritablement des pistes extraordinaires, et je crois que cette clarté nous fait parfois défaut. Alors, de ma besace, après John Stott, ce n'est pas parce que je m'appelle Pascal Gonzalez, mais c'est un auteur d'origine espagnole, José Martinez, qui a écrit deux livres avec son fils aussi, Pablo Martinez, sur la prière. Et évidemment, c'est une occasion aussi pour moi de rappeler l'importance de la prière dans le ministère pastoral. C'est une telle évidence qu'on a un peu honte de le dire lors d'une soirée au coin du livre, et pourtant le pasteur est en train de s'éloigner de la mission fondamentale qui lui a été confiée. Chaque fois qu'il s'éloigne de Dieu personnellement, intimement, chaque fois qu'il ne prie que pour préparer ses prédications ou ses études bibliques, ou parce qu'il y a une difficulté importante dans l'église ou dans sa vie de famille. Et évidemment que nous sommes sans cesse rappelés à l'ordre, et que ce qui va faire que notre ministère est fécond, c'est cette relation personnelle et profonde que nous aurons avec Dieu, et tout le reste viendra ensuite. Et ce livre rappelle des choses essentielles sur la prière, et il vaut le coup d'être lu attentivement. Alors, un pasteur a souvent dans sa bibliothèque beaucoup de livres, beaucoup trop. Et dernièrement, je me suis dit qu'il fallait que je n'achète plus que des commentaires. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour la librairie Calvin, mais je sais que de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais je ferai un effort. Voilà, la place des commentaires bibliques dans la vie d'un pasteur. Nous sommes au bénéfice d'une histoire extraordinaire, une histoire riche. Des gens ont travaillé avant nous, des gens ont mieux travaillé l'hébreu et le grec que nous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que notre hébreu et notre grec souvent est loin derrière. On en connaît suffisamment pour comprendre ce que veulent dire les commentaires savants, mais on a de plus en plus de mal à faire de bonnes exégèses et de vraies exégèses du texte biblique. En tout cas, nous sommes au bénéfice de ceux qui, eux, n'ont pas oublié. Au bénéfice de Calvin, par exemple, qui lui faisait la véritable exégèse et qui a cette capacité de commenter le texte biblique avec profondeur et lui aussi avec un bon sens pastoral. Et j'avais envie de citer Frédéric Godet et ses nombreux commentaires, notamment le commentaire de l'évangile de Saint Jean. Voilà des commentaires qui sont savants et qui en même temps nous permettent d'entrer véritablement dans le sens du texte, et de ne pas se laisser gagner par certaines théologies. Je parlais tout à l'heure de John Stott, mais pour un pasteur aussi, vivre une formation permanente, hein, ne pas se contenter de ce qu'il a reçu à la faculté, même si j'estime que ce qu'il a reçu est essentiel et que c'est un acquis pour la vie, mais continuer à refaire ses gammes, un peu comme un musicien hein, qui ne vit pas seulement sur ses acquis, mais qui régulièrement refait ses gammes sur son instrument, hein, et reprendre les fondamentaux et comprendre qu'il y a un vrai défi dans l'interprétation des Écritures. Et là aussi, peut-être quelque chose qui me tient à cœur, mais comprendre aussi que nous avons une famille théologique. Je ne pense pas être un grand théologien. Il me semble que c'est ce que m'ont fait comprendre mes professeurs de théologie. Pourtant, je sais que j'ai une responsabilité, qu'il y a un minimum vital pour un pasteur, qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des choses à savoir. Mais sans être un bon théologien ou un très bon théologien, ou plutôt parce que je ne suis pas un très bon théologien, j'ai besoin de bien savoir quelle est ma famille théologique. Et je vous avoue que lorsque je choisis un commentaire biblique, lorsque je lis un article, rapidement j'essaie de savoir qui a écrit cet article, de quelle famille fait-il partie. Et on sait rapidement de quelle famille fait partie un auteur. Et puis on sait même dans une maison d'édition souvent, hein, si cette maison d'édition est plutôt d'une famille critique ou d'une famille évangélique. Alors ça ne garantit pas la qualité absolue du livre. Il y a des non-chrétiens qui écrivent des choses extraordinaires hein, sur Dieu et sur la foi, et il y a des chrétiens qui écrivent des livres insipides, et même lorsqu'ils sont dans la famille évangélique. Mais j'avoue que c'est aussi quand même une règle. J'essaie de puiser à la bonne source et de me nourrir dans ma famille théologique, et j'apprécie Frédéric Godet pour ça. J'ai découvert il y a quelque temps dans un grenier un vieux livre qui raconte l'histoire de nos cantiques, et ça me permet non seulement de dire la place du chant et du cantique dans l'histoire de l'Église et dans la vie de l'Église bien sûr, mais aussi la place du chant et du cantique dans ma vie en tant que pasteur. Et évidemment que ces chants et ces cantiques ont nourri mon enfance et qu'ils m'ont formé, comme les études de théologie m'ont formé. Je suis au bénéfice aussi d'une église qui a été traversée par la réforme et par le réveil, traversée par des gens qui avaient une identité réformée forte et puis par des gens qui avaient une identité évangélique de réveil aussi très forte. Et du coup, j'ai eu un panel de cantiques spirituels qui m'ont nourri et dans lesquels je me reconnais pleinement. Et c'est un magnifique livre. Ça me permet de dire aussi que nous sommes souvent, pasteur, amoureux des livres et qu'il y a des vieux livres qu'on n'écrit plus comme ça aujourd'hui. On n'écrit plus de la même façon et on ne prend plus autant de temps. Et du coup, on apprécie d'avoir de vieux livres de bonne qualité chez nous. Je me permets de faire un tout petit peu de publicité pour une très bonne librairie dans laquelle j'ai acheté un sermon inédit de Jean Calvin. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Et pour nourrir ma foi, et puis pour me permettre aussi un dimanche de prêcher Jean Calvin, en tout cas de prêcher évidemment le Christ, mais en utilisant les mots de Jean Calvin, dans un français un peu plus moderne, mais en gardant la plupart de ses saillies, la plupart de ses phrases fortes, et même une critique qu'il adressait, une critique sévère qu'il adressait aux papistes. Et si je l'ai gardé, c'est parce que juste après cette critique très sévère, Jean Calvin disait « Mais nous sommes pires que les papistes, parce que nous n'avons pas comme eux cette soif du ciel. » Et je trouvais cette phrase assez extraordinaire d'entendre Calvin, et nous en avons l'habitude, ou en tout cas nous le savons, critiquer les papistes et puis juste après se permettre de nous montrer que nous sommes parfois bien pires qu'eux dans notre peu de désir du ciel. Je termine avec deux ouvrages, un ouvrage qui me permet de rappeler là l'importance de l'histoire, notre histoire et puis l'histoire de nos églises, l'histoire de l'église en général. Une vieille brochure que j'ai trouvée et qui raconte l'histoire de mon église réformée évangélique de Vauvert. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir d'où nous venons, ce qui s'est passé avant nous. J'ai bien aimé le livre aussi de M. Langéré, Les déchirements de l'unité, qui raconte l'histoire de nos églises réformées évangéliques et qui montre à quel point il y a eu des souffrances et des erreurs et des blessures, et que nous faisons partie de cette longue histoire. Nous devons parfois nous en détacher, mais nous en faisons partie. Et puis je termine évidemment avec une Bible, une vieille Bible qui est ma Bible d'enfant, toute marquée et toute abîmée. Pour terminer cette introduction, j'ai envie de dire, ou cette intervention sur le pastorat, et pour vous dire qu'évidemment, il me semble que le pastorat ne peut être qu'une vocation, qu'il faut que nous soyons appelés par Dieu, il faut que cet appel soit confirmé par l'Église. On ne se proclame pas pasteur. J'en parlais dernièrement à des jeunes lycéens qui me demandaient comment est-ce qu'on devenait pasteur. Et nous devons bien reconnaître qu'ici en France, n'importe qui peut se proclamer pasteur. Mais même s'il peut le faire, nous devons affirmer que ce n'est pas ce que disent les textes bibliques, véritablement. Et qu'un pasteur est quelqu'un qui reçoit un appel, mais qui ne devient pasteur que lorsque cet appel est confirmé par la communauté dans laquelle il sert, par les communautés dans lesquelles il travaille. Et qu'il me semble que ce ministère pastoral, en tout cas dans notre union d'église, n'a pas tant changé que ça quand même finalement. En tout cas, il ne devrait pas tant changer que ça. Nous devons rester des simples bergers qui ont une grande responsabilité, celle de lire la parole, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la traduire, de l'interpréter correctement. Et puis, notre deuxième responsabilité, c'est celle d'accompagner ceux qui nous ont confiés, ceux qui nous sont confiés véritablement, et de savoir nous taire quand il faut se taire, et de savoir trouver les mots que Dieu adresse à ces personnes, parce que nous saurons nous laisser guider par l'Esprit. J'ai bien conscience de ne pas dire des choses très, très originales et très savantes, mais laissez-moi vous dire quand même la beauté et la difficulté d'un tel ministère. J'aurais envie à la fin de cette soirée que vous ayez envie de devenir pasteur, que vous vous sentiez appelé à être pasteur, en vous montrant à la fois les privilèges et les responsabilités. Il y a ces deux facettes qui se complètent et qui sont à hauteur égale. Un grand privilège, parce que être soutenu financièrement par une église pour en quelque sorte lire le texte biblique, quel privilège. J'ai envie de dire, je suis payé pour ça, pour lire le texte biblique, pour essayer de bien le comprendre, de le transmettre à ceux qui sont dans la communauté et à ceux qui n'y sont pas encore. C'est un privilège extraordinaire et en même temps une responsabilité parfois un peu écrasante. Et je me souviens, et je termine là-dessus, d'un ami étudiant qui faisait ses études en même temps que moi, et lors de nos ateliers de prédication, il devait prêcher sur un texte de l'épître de Jacques qui parle de la langue et de la responsabilité de ceux qui prêchent. Et bien cet ami, qui justement n'avait pas sa langue dans sa poche ce jour-là, au moment de prêcher devant les quelques étudiants et le professeur de théologie pratique, s'est retrouvé sans voix et en larmes. Et il a dit, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Si ce n'est qu'aujourd'hui, je sens la responsabilité que j'ai et que je vais avoir si je deviens pasteur, comme j'ai l'impression que Dieu m'appelle. Et je sens que j'ai véritablement besoin de son esprit. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous dire si ce n'est mon émotion et ma prière, que Dieu me rende digne, que Dieu me donne son esprit et qu'il me donne les forces pour assumer cette mission. Et je trouve que c'était une belle prière et je la fais bien. Merci. Merci.
On ne va pas vous laisser partir comme ça, on va poser des questions. J'espère qu'il y a des remarques, des interventions. Voilà, donc la parole est à vous.
J'avais une question par rapport à votre système de fonctionner dans les RII. Qu'est-ce que c'est le presbytérienne, je ne sais pas, c'est le système d'église, comment ça fonctionne, presbytéro-synodal ou quelque chose comme ça. Et la place du pasteur dans ce système, par rapport au conseil, par rapport au conseil fédéral.
Alors c'est vrai qu'on différencie souvent les églises presbytériennes synodales, ou réformées, des églises congrégationalistes, en tout cas des églises qui sont un peu indépendantes, qui peuvent souvent fonctionner un peu toutes seules. Donc c'est simplement un système qui... alors, qui propose une sorte de démocratie chrétienne, j'ai envie de dire, avec des délégués d'église, qui sont des anciens, alors au sens biblique du terme, qui se retrouvent pour prendre les grandes décisions qui concernent l'église. C'est comme cela que nous voulons prendre des décisions qui concernent l'avenir ou qui changeraient, ou qui... des décisions qui impliqueraient un changement dans notre fonctionnement ou dans notre liturgie. Voilà, on se réunit en synode, d'où le mot synodal, et ce sont ces presbytres, ces anciens, qui se réunissent dans ces synodes et qui prennent les décisions. Et les pasteurs, notre discipline le dit clairement, ne sont que des anciens parmi les anciens. Simplement, ils ont cette responsabilité particulière d'annoncer la parole, ils ont été formés pour cela. Mais ils sont anciens parmi les anciens. Voilà. Donc ils n'ont pas un statut si particulier que cela. Et là, on pourrait étrangement rejoindre des communautés de frères où les anciens jouent le rôle des pasteurs. Ce qu'on peut dire quand même malheureusement pour terminer, c'est que parfois dans la pratique, cela ne se passe pas tout à fait comme ça. Et que lorsque le conseil d'anciens ne joue pas vraiment son rôle, le pasteur peut être amené finalement à tout faire et à faire un peu trop de choses. Et il ne ressemble plus à un ancien parmi les anciens, mais à un prêtre qui serait le seul à assumer les différentes responsabilités de l'Église.
Le pasteur est contrôlé par ses anciens ou quelle est sa liberté? Parce que bon, dans une paroisse tout va bien, il n'y a pas de problème, mais enfin on entend, c'est pas ici, mais j'ai entendu dans l'Est, dans les églises italiennes, c'est un peu différent, où le pasteur était amusé parce qu'il ne pouvait plus dire ce qu'il voulait, puisque son conseil l'empêchait. Bon, l'église italienne n'est pas tout à fait le même système, mais comment ça se passe
J'allais presque dire, malheureusement, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Presque, mais ce serait un peu provocateur. Je dirais que j'aimerais être un peu plus muselé par mon conseil d'ancien. Dans le sens où, de temps en temps, et je crois que je ne suis pas le seul, nous aimerions que nos conseils osent un peu plus nous contredire ou nous interpeller. Il y a là aussi certainement toute une tradition ou toute une figure du pasteur qui fait qu'on n'ose peut-être pas trop lui dire des choses. Lorsque moi je me rends compte quelques mois après que quelqu'un n'a pas osé me faire une remarque concernant une prédication ou concernant une parole adressée, j'en suis très triste, et notamment un ancien. Mais normalement, il y a ce jeu-là, ce système-là. Les anciens ont la responsabilité de reprendre un pasteur si ce pasteur s'écarte de la saine doctrine. Et de la même façon, une commission exécutive, c'est-à-dire une commission qui s'occupe des affaires de la région, peut intervenir auprès d'une église et d'un pasteur pour lui dire qu'il est à côté de son ministère ou de sa théologie. Nous avons une confession de foi claire, des fiches théologiques qui précisent notre identité. Et j'ose espérer qu'un pasteur qui s'éloignerait de trop de ces textes-là, ou dans son comportement ou dans ses paroles, serait repris, si ce n'est par son conseil, souvent par certains de ses fidèles, et puis peut-être même par les commissions régionales ou nationales.
D'autres questions, remarques?
Une autre question, moi je vais être indiscrète un petit peu. C'est quoi ton emploi du temps? Comment ça se passe une journée comment ça se passe? Je sais pas pour toi, mais pour le pasteur en général.
C'est une bonne question. Et lorsqu'on parlait dans l'introduction, en fait, de l'arrivée des femmes pasteurs, alors, dans notre union d'église, je ne sais pas, parce qu'il y en a si peu que nous ne pouvons pas encore tirer de grandes conclusions sur cette nouveauté-là. Mais je sais que dans d'autres unions d'église, une des difficultés, justement, c'est la gestion du temps. Hein. Comment une famille, en tout cas, hein, peut gérer son temps. Là. Parce que la particularité, il me semble, hein, à part quand le ministère pastoral devient est fonctionnarisé, hein, et qu'il y a des heures de bureau ou de travail, la particularité de ce ministère, c'est que nous n'avons pas véritablement d'emploi du temps précis, il me semble. Hein. Et c'est un peu normal. Il me semble qu'une des priorités, c'est le temps passé devant les Écritures, sous les Écritures, j'allais dire, et puis le temps passé avec les gens. Et vous imaginez que nous sommes donc à la merci de l'emploi du temps des uns et des autres. Et si nous voulons rencontrer les gens, nous allons devoir nous rendre disponibles. Alors il y a des semaines où le rythme de vie peut être un peu trop élevé, et puis des semaines, alors là c'est assez personnel, mais où je me permets de lever carrément le pied pour que la famille puisse aussi profiter de ma présence. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement de semaine type. Simplement, je découvre et je redécouvre jour après jour et semaine après semaine qu'il faut quand même une belle hygiène de vie pour être pasteur. Et si je n'ai pas la même hygiène de vie que certains vieux pasteurs qui m'ont donné beaucoup de conseils, je me souviens quand même bien de leurs conseils et j'en suis au bénéfice. Hein. Et je me rappelle de M. Longeret notamment, hein, qui se levait très tôt le matin et qui lisait tous les matins. Pas sa Bible, parce que ça, il le faisait tous les jours, bien sûr, et à un autre moment de la journée, mais il lisait un livre intéressant, quelque chose qui pouvait nourrir sa foi et l'aider à rester en contact aussi avec la société. C'était une discipline qu'il s'imposait. Je me rappelle aussi qu'un autre pasteur me disait qu'il prêchait la plupart du temps sans notes, c'est ce que je fais aussi, mais lui, ça c'est ce que je ne fais pas, le lundi ensuite il écrivait ses prédications, et c'était un exercice d'écriture pour développer la richesse de son vocabulaire, et puis pour réfléchir à nouveau à ce qu'il avait apporté la veille, hein, pour faire le point un peu sur cette prédication. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de semaine type, et en même temps, nous sommes appelés à avoir une discipline de vie, d'autant plus si nous avons une famille, une femme et des enfants, et que nous nous devons aussi à cette famille-là.
Tout à l'heure, on évoquait la figure du pasteur qui paraît une figure un peu, forte, qui impose le silence, même sans le vouloir, à son conseil. Est-ce que ça ne pose pas un autre problème pour le pasteur lui-même, savoir trouver des vis-à-vis aussi? Est-ce qu'il existe une solitude du pasteur? Est-ce que le pasteur... est-ce que vous avez ressenti parfois cette solitude, l'impossibilité de partager des fardeaux, des soucis, des préoccupations personnelles? Là, je suis peut-être un peu direct, mais des préoccupations personnelles et finalement se retrouver sans personne avec qui partager, sauf bien sûr par la prière, hein, on est bien d'accord, mais on reste des humains. Et justement, comme vous disiez tout à l'heure, le pasteur reste un homme. Est-ce que l'attente de la communauté ne fait pas aussi que finalement le pasteur se retrouve isolé, ou est-ce que c'est une déviance du système?
Alors il y a les deux risques, il me semble. Hein. Je crois qu'on les vit dans notre union d'église en tout cas. Hein. Le pasteur qui va se confier un peu trop facilement, et qui va devenir l'ami ou l'intime des fidèles de l'église, donc il ne vit pas la solitude du tout, mais il va vivre d'autres sortes de difficultés, hein, parce que finalement il s'avère que c'est quand même assez difficile de pouvoir se confier complètement justement aux fidèles de l'Église. Donc ça, c'est un risque majeur, je crois. Et là, il y a un autre pasteur à la retraite, on a beaucoup de pasteurs à la retraite dans nos églises, et ils sont d'un grand secours, qui disait, même si c'est peut-être un peu catégorique et un peu tranché, il y a quelque chose à entendre dans cette parole. Il disait, le pasteur ne peut pas avoir d'amis dans l'Église. Et je crois comprendre ce qu'il veut dire quand même. Si j'ai des amis, ça veut dire que j'ai une relation privilégiée avec certains membres de mon église, et que cette relation privilégiée risque d'entraîner des difficultés. Et je suis appelé à être le pasteur de tous. Et du coup, je vais devoir trouver ailleurs une oreille attentive et un confident. Alors, dans notre système, dans notre organisation, lorsque nous démarrons notre ministère pastoral, nous avons un pasteur référent. Donc, ce pasteur-là peut rester pendant notre ministère celui qui est à notre écoute, si nous le souhaitons et s'il le souhaite aussi. Et il arrive assez fréquemment que ce soit le cas. Et cela veut dire à ce moment-là qu'on a un vis-à-vis, on a un référent. Ça, c'est intéressant et important. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, on prend le risque effectivement d'être dans la solitude. Et certains pasteurs de notre union d'église s'imposent de trouver un référent. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Nous sommes obligés d'avoir un pasteur référent pendant le proposana, cette période de 3 ans qui commence notre ministère, mais ensuite rien n'est obligé. Donc là, c'est un peu à la sagesse de chacun. Mais c'est une question importante. Et c'est évident que la solitude du pasteur existe. Et je serais même tenté de dire la solitude de la femme du pasteur, qui risque, elle aussi, de ne pas vraiment avoir de pasteur. En tout cas, de quelqu'un qui joue ce rôle avec suffisamment de recul.
Vous parliez tout à l'heure des prédications, des thèmes qui sont absents des prédications, et vous le déploriez. Quels sont ces thèmes à vos yeux?
Alors là, les personnes âgées de mon église nous le diraient facilement et rapidement. J'ai eu beaucoup de remarques ces derniers temps en discutant avec les personnes plus âgées justement sur ces thèmes absents. En tout cas, s'ils ne sont pas absents, ils sont évoqués brièvement et discrètement, et puis avec un ton très très prudent. Donc il y a la question évidemment du jugement dernier, de la fin des temps, du retour de Christ, la question du péché, et pas simplement évoquer le mot péché, mais entrer dans la réalité du péché et dans la nécessité de la repentance. Alors je crois quand même, sans trop m'avancer, que dans notre union d'église, on se tient à ces thèmes-là et qu'on ne les oublie pas. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a une différence entre ce qui était dit il y a 50 ans et ce qui est dit maintenant. Et que nous avons, là aussi, moi je crois, à nous laisser interpeller lorsque nous consultons, et c'est un exercice intéressant pour les pasteurs, lorsque nous consultons des vieilles compilations de prédications, qui date d'il y a 50 ou 100 ans, et ça nous fait du bien, parce que certaines paroles sont encore très actuelles, et je me dis souvent qu'elles pourraient être adressées telles quelles à nos contemporains. Donc voilà, il y a des sujets en tout cas de ce type-là, sur le jugement dernier, le retour du Christ, et le péché ou la repentance par exemple,
qui manque peut-être un message trop tranché. Parce que Calvin, c'est sûr, lui avait une application assez concrète des situations.
Alors, ce qu'on a peut-être oublié aussi, et on en parle un peu dans notre Église, en tout cas ces derniers temps, c'est ce que faisaient les réformés, c'est-à-dire l'exposition systématique des Écritures, parce que là, on ne peut oublier aucun thème. Si on décide, comme Calvin, de s'attaquer à l'Épître aux Romains et de prêcher sur l'Épître aux Romains, eh bien, on ne peut passer à côté d'aucun des thèmes qui sont abordés dans l'Épître aux Romains, si on est sérieux et honnête, en tout cas. Et donc peut-être que de temps en temps, nous devons redécouvrir aussi cette application, cette discipline là aussi, de fouiller les textes et d'aborder un livre du début jusqu'à la fin, en prédication, en étude biblique. Mais évidemment qu'il y a derrière cette prudence la peur de braquer les gens. On pense peut-être un peu trop souvent à ce que penserait quelqu'un qui viendrait pour la première fois et qui entendrait une prédication sur la repentance et sur le jugement dernier, sur la fin des temps. Et je pense évidemment qu'on se trompe, que ça ferait beaucoup de bien à cette personne qui vient pour la première fois. Mais évidemment qu'il y a une peur, et qu'il y a une peur aussi d'être considéré comme un mouvement sectaire, avec des paroles trop tranchées, et mal comprises, ou mal transmises ensuite. Mais je crois que nous sommes tout à fait capables de dire des choses très claires, avec beaucoup de douceur et d'humilité.
Comment vous fonctionnez le dimanche ou les études bibliques? C'est vous-même qui choisissez les thèmes que vous allez étudier? Vous faites des thèmes transversaux? Vous étudiez un texte biblique? Ou alors ces textes vous sont imposés? C'est le conseil qui vous l'impose? C'est une directive régionale? C'est des textes suivis? Comment ça se passe?
Non, il n'y a pas de directive régionale ou nationale, si ce n'est que les églises sont invitées lorsqu'il y a des synodes et des sujets synodaux importants, sont invitées à traiter ces sujets. Donc là, on va se retrouver dans des études bibliques ou dans des discussions sur des sujets qui sont proposés, en tout cas par l'Union nationale de nos églises. Sinon, c'est vraiment le conseil et le pasteur qui font le choix là, de ces textes ou de ces livres qui seront prêchés ou commentés lors des cultes ou des études bibliques. Donc c'est là aussi qu'il y a une responsabilité importante et qu'il est bon de temps en temps de regarder en arrière pour voir ce que nous avons vraiment fait comme travail, réellement.
Est-ce qu'il y a des questions encore, des remarques?
Juste une question sur la place pour les jeunes dans le temps du pasteur, parce que je crois qu'en plus vous êtes assez préoccupé. Les groupes de jeunes et tout ça, ça se passe comment?
C'est une bonne question. Je crois qu'on fait du bon travail avec les enfants et que cette église d'Alès en tout cas a eu la chance ou la grâce plutôt de recevoir des pasteurs ou d'avoir des anciens qui avaient le souci des enfants et des jeunes, c'est vrai. La colonie de Grisac a été fondée par un pasteur d'Alès avec le désir de proposer des vacances aux enfants de mineurs et le désir que ces enfants de mineurs découvrent l'Évangile. Donc vraiment, l'église d'Alès est encore aujourd'hui au bénéfice de cet élan et de ce désir de toucher le cœur des enfants, et pas simplement d'accompagner les enfants de l'église, mais de toucher le cœur des enfants de la cité, et puis de répondre à des besoins concrets. Donc le fait de monter une colonie de vacances pour que ces petits enfants-là aient aussi des vacances. Et je crois que l'église de réforme évangélique d'Alès est toujours au bénéfice de cet élan et qu'il y a un vrai travail qui se fait au niveau des enfants. Maintenant, moi, je suis forcé d'admettre qu'il y a une sorte de fracture quand même entre les jeunes de nos églises et notre église. Et il y a pas mal de raisons à cela. Et c'est autant aux jeunes, à saisir l'appel de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander à des jeunes de venir au culte, de s'engager dans des activités, tant que l'esprit n'a pas fait son travail, on ne peut pas les forcer à avoir soif. Maintenant, nous devons nous aussi de temps en temps réformer nos habitudes et réformer nos cultes et nos façons de penser pour que les jeunes puissent se sentir réellement à leur place. Et peut-être juste un témoignage à ce sujet, mais Avec quelques pasteurs de notre union d'église, nous avons beaucoup réfléchi à la question de la jeunesse. Il y a des jeunes dans nos églises, mais ils ne sont pas vraiment engagés dans l'église, en tout cas pas tous, et pour nous c'est troublant et triste. Et une de nos conclusions, en tout cas, ce n'est pas la plus importante, mais c'est la plus intéressante dans ce moment, je trouve, c'est que les jeunes ont du mal à trouver leur place, et surtout, nous ne les avons pas assez aidés à trouver leur place dans l'église, à discerner leurs dons et à le mettre au service de l'Église. Et surtout, les jeunes n'ont pas véritablement établi de relations vraies et profondes avec des adultes de l'Église. Et là, il y a un vrai défi. Que ces jeunes-là découvrent ou redécouvrent les gens qui vivent à côté d'eux le dimanche, ou qui sont leurs voisins, ou qui sont leurs anciens moniteurs d'école biblique. Et quand il y a une vraie relation d'amitié qui se crée transgénérationnelle, là, il y a quelque chose qui est gagné, vraiment. Et on a beaucoup de témoignages de jeunes, alors sur des ouvrages qui réfléchissent à la jeunesse, qui disent que lorsque les jeunes quittent l'église parce qu'ils ont une période de trouble, parce que c'est l'université, ou parce que les événements de la vie font que, s'il n'y a pas ces relations d'amitié fortes, ils quittent l'église souvent pour longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y revenir, mais ils vont passer par des périodes de turbulences malheureuses et qui auraient pu être évitées s'il y avait eu cette amitié forte entre eux et des adultes de l'Église. Donc ça, c'est un souci dans notre Église et un désir là, que nous puissions vivre des activités là, intergénérationnelles, et que les adultes de l'Église aussi se soucient des jeunes. On a une phrase là qui dit on manque pas tellement de jeunes dans l'Église, mais d'adultes qui n'aient pas peur des jeunes et qui veuillent bien entrer en relation avec eux, une relation vraie et profonde.
Merci à vous.